Chapitre 6e. Le secret des Mélamars. Cette fois, Jean d'Enrys resta maître de lui, du moins en apparence. Pas de colère, pas de jurons, mais quelle rage bouleversait son être. Il consulta sa montre. 7 heures, dînons. Tenez, voilà un petit caboulot. À 8 heures, nous entrerons en action. Pourquoi pas tout de suite, dit Béchou. Ils s'établirent dans un coin, parmi de petits employés et quelques chauffeurs de taxi. Et d'Enrys répondit au brigadier. « Pourquoi ? Parce que je suis dérouté. J'ai agi au hasard, tâchant de parer les coups que j'envisageais comme possible. Mais trop tard, et chacun d'eux m'a un peu plus démoli. J'ai besoin de me refaire et de comprendre. Pourquoi ce Fagerot a-t-il fait partir de chez elle, Régine et Arlette ? Tout ce qu'on peut supposer d'un tel homme n'est pas de nature à me rassurer. Et tu crois que dans 1 heure, il faut toujours se donner une limite de temps, Béchou. Cela vous oblige à trouver. » On eût dit vraiment que d'Enrys ne se tourmentait guère, car il mangea de bon appétit et parla même de choses indifférentes. Mais ses gestes étaient nerveux, et l'on devinait la tension inquiète de son cerveau. Au fond, il considérait la situation comme très grave. Vers 8 heures, sur le point de s'en aller, il dit à Van Houben « Prenez des nouvelles de la comtesse par téléphone. » Au bout d'une minute, Van Houben revint de la cabine installée dans le café. « Rien de nouveau, » m'a dit la femme de chambre que j'ai mise à son service. « Elle va bien, elle dîne. »« Filons. »« Où ?» demanda Béchou. « Je ne sais pas. Marchons, il faut agir. Il le faut, Béchou, » répéta d'Enrys avec force. « Quand on pense que toutes deux, elles sont à la disposition de cet individu. » Ils descendirent à pied des hauteurs de Montmartre vers la place de l'Opéra, et Jean exhalait sa fureur en phrases brèves. Un rude jouteur que c'est Antoine Fagerot, et qui me le paiera cher. Tandis que nous dispersions nos efforts, il agissait, lui, et avec quelle énergie. Que veut-il? Qui est-il? Un ami du comte, comme sa lettre interceptée le donnerait à croire, ou bien un ennemi, un complice ou un rival? Et en tout état de cause, quel est son but en entraînant hors de chez elle ces deux femmes? Elles ont déjà été enlevées l'une après l'autre. Que cherche-t-il en les emmenant ensemble? Et pourquoi Arlette s'est-elle cachée de moi? Longtemps il se tut, il réfléchissait, frappant du pied parfois et bousculant les passants qui ne se dérangeaient pas. Soudain Béchu lui dit « Tu sais où nous sommes ?»« Oui, sur le pont de la Concorde. » »« Donc pas loin de la rue d'Urfé ?»« Pas loin de la rue d'Urfé et de l'hôtel de Mélamar, je le sais. » »« Alors ?» D'Enrys saisit le bras du brigadier. « Béchu, notre affaire est de celle où nul indice ne vous guide comme d'habitude. » Ni empreinte digitale, ni mensuration, ni vestige de pas, rien. Rien que l'intelligence, et plus encore, l'intuition. Or, c'est de ce côté, et pour ainsi dire à mon insu, que mon intuition m'a dirigé. C'est là que tout s'est passé, là que fut conduite Régine d'abord, puis Arlette. Et malgré moi, j'évoque le vestibule d'allée, les 25 marches de l'escalier, le salon. Il longeait la chambre des députés. Béchou s'écria « Impossible. Voyons. Pourquoi cet homme-là répéterait-il ce qu'un autre a fait, et dans des conditions bien plus dangereuses pour lui ? C'est justement ce qui me trouble, Béchou. S'il lui a fallu risquer cela pour la réussite de ses projets, comme ses projets doivent être menaçants. Mais c'est qu'on n'y entre pas comme on veut dans cet hôtel, protesta Béchou. Ne te fais pas de bile pour moi, Béchou. Je l'ai visité de fond en comble, de jour et de nuit, et sans que le vieux François s'en doute. Mais lui, Antoine Fagerot, comment veux-tu qu'il entre ? Et surtout qu'il introduit ces deux personnes. Avec la complicité de François, parbleu, ricana d'Enrys. Au fur et à mesure qu'il approchait, il pressait l'allure comme si sa vision des choses devenait plus nette, et qu'il imagina avec plus d'anxiété les événements auxquels il fallait faire face. Il évita la rue d'Urfé, contourna le pâté de maisons qui entourait l'hôtel, et gagna la rue déserte qui bordait le jardin sur la façade postérieure. Au-delà du pavillon abandonné, il y avait la petite porte par où Arlette s'était enfuie. De cette porte, d'Enrys, au grand étonnement de Béchou, possédait les clés, clés de la serrure et clés du verrou de sûreté. Il ouvrit. Le jardin s'étendait devant eux, demi-obscur, et l'on entrevoyait la masse de l'hôtel qu'aucune lumière n'éclairait. Les persiennes devaient être closes. De même qu'Arlette, mais en sens contraire, ils suivirent la ligne plus sombre des arbustes, et ils se trouvaient à 10 pas de la maison, lorsqu'une main brutale empoigna l'épaule de d'Enrys. « Et quoi ? » murmura-t-il, aussitôt sur la défensive. « C'est moi, » dit une voix. Qui, vous, hein, Van Houben, que voulez-vous, saperlotte? Mes diamants, vos diamants. Tout me laisse croire que vous allez les découvrir. Or, jurez-moi, fichez-nous la paix, marmotta Denris exaspéré, et en poussant Van Houben qui trébucha dans un massif. Et puis restez là, vous nous gênez, faites le guet. Vous me jurez? Denris reprit sa course avec Béchou. Les persiennes du salon étaient fermées. Tout de même, il grimpa jusqu'au balcon, jeta un coup d'œil, écouta et sauta à terre. Il y a de la lumière, mais on ne voit rien à l'intérieur et l'on n'entend rien. Donc c'est manqué. T'es bête. Une porte basse faisait communiquer le sous-sol et le jardin. Il descendit quelques marches, alluma une lampe de poche, franchit une salle encombrée de pots à fleurs et de caisses, et déboucha avec précaution dans le vestibule qu'une ampoule éclairait. Personne. Il monta le grand escalier en recommandant le silence à Béchou. Sur le palier, en face, il y avait le salon. À droite, un boudoir qui n'était guère utilisé, mais qu'il connaissait bien pour y avoir fureté. Il y entra, longea dans l'obscurité le mur qui séparait les deux pièces, et se mit en mesure d'ouvrir avec une fausse clé, et sans qu'il se produisît un craquement ou un grincement, la porte à deux battants qui était condamnée à l'ordinaire. Il savait que, de l'autre côté, une tapisserie la masquait, et que cette tapisserie, doublée d'une toile trouée à certaines places, offrait des endroits par où l'on voyait au travers du fin grillage de la trame. Ils perçurent des pas qui allaient et qui venaient sur le parquet, aucun bruit de voix. Denris appuya sa main sur l'épaule de Béchou, comme pour prendre contact avec lui et lui imposer ses impressions. La tapisserie avait bougé légèrement, au courant de l'air. Ils attendirent qu'elle se fût immobilisée. Alors ils collèrent leur visage contre elle et ils virent. Vraiment, la scène dont ils furent les témoins surpris ne leur semble pas de celle qui nécessite une irruption et une bataille. Arlette et Régine, assises l'une près de l'autre sur un canapé, regardaient un monsieur, grand, blond, qui se promenait d'un bout à l'autre de la pièce. C'était l'homme qu'ils avaient rencontré au Petit Trianon, le correspondant de M. de Mélamar. Aucune de ces trois jeunes personnes ne soufflait mot. Les deux jeunes femmes n'avaient pas l'air anxieux, et Antoine Fageroy n'avait point l'aspect belliqueux ou menaçant ou même désagréable. Ces gens-là semblaient plutôt attendre. Ils écoutaient. Leurs yeux se tournaient souvent vers la porte qui donnait sur le palier, et même, Antoine Fageroy alla l'ouvrir et prêta l'oreille. « Vous n'avez aucune inquiétude ?» lui dit Régine. « Aucune, » déclara-t-il, et Arlette ajouta. « La promesse fut formelle et donnée sans même que j'aie besoin d'insister. Mais vous êtes sûr que le domestique entendra le timbre ?»« Il a bien entendu notre appel. D'ailleurs, sa femme le rejoint dans la cour, et je laisse les portes ouvertes. » Denry serra l'épaule de Béchou. Il se demandait ce qu'allait se passer et quelle était cette personne dont la visite promise avait attiré Arlette et Régine. Antoine Fageroy vint s'asseoir auprès de la jeune fille et ils parlèrent tout bas avec animation. Il y avait une certaine intimité entre eux. Lui, il se montrait empressé et se penchait vers elle un peu plus qu'il n'eût fallu sans qu'elle s'en offusquât. Mais ils se séparèrent brusquement. Fageroy se leva. Le timbre de la cour avait frappé deux fois, coup sur coup. Et deux fois encore, après un léger intervalle, il retentit. « C'est le signal, » dit Fageroy, qui se hâta vers le palier. Une minute s'écoula. Des voix échangèrent quelques paroles. Puis il revint, accompagné d'une femme que Denris et Béchou reconnurent aussitôt, la comtesse de Mélamar. L'épaule de Béchou fut triturée avec une telle force qu'il étouffa un soupir. L'apparition de la comtesse stupéfiait les deux hommes. Denris avait tout envisagé, sauf qu'elle abandonna sa retraite et qu'elle vint à la réunion provoquée par l'adversaire. Elle était pâle, essoufflée. Ses mains tremblaient un peu. Elle regardait avec angoisse cette pièce où elle n'était pas retournée depuis le drame, et ces deux femmes, dont le témoignage redoutable l'avait fait fuir et avait perdu son frère. Puis elle dit à son compagnon « Je vous remercie de votre dévouement, Antoine. Je l'accepte, en souvenir de notre ancienne amitié. » Mais sans espérer beaucoup. Ayez confiance, Gilberte. Vous voyez bien que j'ai déjà su vous retrouver. Comment? Par Mademoiselle Mazol, que j'ai été voir chez elle et que j'ai gagné à votre cause. Sur mes instances, elle a interrogé Régine Aubry, à qui Van Houben avait confié le lieu de votre retraite. C'est Arlette Mazol qui, ce matin, vous a téléphoné de ma part pour vous supplier. Gilberte inclina la tête en signe de remerciement et elle dit : Je suis venue furtivement, Antoine. et à l'insu de l'homme qui m'a protégé jusqu'ici et à qui j'avais promis de rien faire sans l'avertir. Vous le connaissez, Jean Denrys ? Oui, parce que m'en a dit Arlette Mazol, qui elle aussi regrette d'agir en dehors de lui, mais il le fallait, je me méfie de tout le monde. Il ne faut pas se méfier de cet homme-là, Antoine. Plus que de tout autre. Je l'ai rencontré tantôt chez une revendeuse que je cherche depuis des semaines et qui a entre les mains les objets volés à votre frère. Il était là, lui aussi, avec Van Hoven et le policier Béchou, et j'ai senti peser sur moi son regard hostile et soupçonneux. Il a même voulu me suivre. Dans quelle intention ? Il pourrait vous aider. Jamais. Collaborer avec cet aventurier qui sort on ne sait d'où, avec ce donjon équivoque et couteleux qui vous tient toutes sous sa domination ? Non, non, non. D'ailleurs, nous n'avons pas le même but. Mon but est d'établir la vérité, le sien de capter les diamants au passage. Qu'en savez-vous ? Je le devine. Son rôle m'apparaît nettement. En outre, d'après mes informations particulières, c'est l'opinion que se font de lui Béchou et Van Hoven. Opinion fausse, affirme Arlette. Peut-être, mais j'agis comme si elle était vraie. Denrys écoutait passionnément. L'aversion que cet homme manifestait contre lui, il l'éprouvait de son côté, instinctive et violente. Il le détestait d'autant plus qu'il ne pouvait pas méconnaître la franchise de son visage et la sincérité de son dévouement. Qu'y avait-il entre Gilberte et lui, dans le passé ? L'avait-il aimé ? Et dans le présent, par quels moyens avait-il pu gagner la sympathie et obtenir la soumission d'Arlette ? La comtesse de Mélamar garda le silence assez longtemps. À la fin, elle murmura « Que dois-je faire ?» Il désigna Arlette et Régine. « Les persuader toutes deux, elles qui vous ont accusées. J'ai réussi, par ma seule conviction, à éveiller leurs doutes et à préparer cette entrevue. Vous seules pouvez compléter mon œuvre. Comment ? En parlant. Il y a dans cette affaire incompréhensible des faits qui la rendent plus incompréhensible encore, et sur lesquels, cependant, la justice est appuyée pour prendre des décisions implacables. Et il y a ce que vous savez. Je ne sais rien. Vous savez certaines choses. Quand vous ne sauriez que les raisons pour lesquelles votre frère et vous, innocents tous deux, ne vous êtes pas défendus. Elle dit avec accablement, « Toute défense est inutile. Mais je ne vous demande pas de vous défendre, Gilberte. » s'écria-t-il d'une voix ardente. « Je vous demande les motifs qui vous obligent à ne pas vous défendre. Sur les faits d'aujourd'hui, pas un mot. Soit. Mais votre état d'esprit, Gilberte, le fond de votre âme, toutes les choses sur lesquelles Jean Denrys vous a vainement interrogé, toutes ces choses que je devine et que je connais, Gilberte, puisque j'ai vécu près de vous, ici, dans l'intimité de cet hôtel, et que le secret d'Aimé Lamar devait m'apparaître peu à peu, toutes ces choses que je pourrais expliquer, mais... que votre devoir est de dire, Gilberte, parce que votre voix seule pourra convaincre Arlette Mazol et Régine Aubry. » Les coudes sur les genoux, la tête entre les mains, elle chuchota. « À quoi bon ?»« À quoi bon, Gilberte ? Demain, je le sais, de sources certaines, on les confronte avec votre frère. Que leur témoignage soit plus hésitant, moins affirmatif, quelle preuve réelle restera-t-il à la justice ?» Elle demeurait prostrée. Tous ces arguments devaient lui sembler insignifiants et vains. Elle le dit et ajouta « Non, non, rien ne servirait. Il n'y a que le silence. » « Et la mort » dit-il. Elle releva la tête. « La mort ?» Il se pencha sur elle et prononça gravement « Gilberte, j'ai communiqué avec votre frère. Je lui écris que je vous sauverai tous deux et il m'a répondu. » « Il vous a répondu, Antoine ?» dit-elle, les yeux brillants d'émotion. « Voici son billet. » « Quelques mots, lisez. » Elle vit l'écriture de son frère et lut. « Merci. J'attendrai jusqu'à mardi soir. Sinon... » Et toute défaillante, elle balbutia. « Mardi, c'est demain ?»« Oui, demain. Si demain soir, après la confrontation, Adrien de Mélamar n'est pas libéré, ou sur le point de l'être, Adrien de Mélamar mourra dans sa cellule. Ne pensez-vous pas, Gilberte, qu'une tentative doit être faite pour le sauver ?» Elle tressaillit de fièvre, repliée de nouveau sur elle-même et la figure dissimulée. Arlette et Régine l'observaient avec une compassion infinie. Denry se sentait le cœur serré. Tant de fois il avait essayé de provoquer en elle cette déroute de la résistance et de l'obstination. Maintenant, elle était vaincue, et c'est dans les larmes, si bas qu'on l'entendait à peine, qu'elle s'exprima. « Il n'y a pas de secret d'Aimé Lamar. Admettre qu'il y ait un secret, ce serait tenter d'effacer des fautes que ceux du dernier siècle et que mon frère et moi nous aurions commises. Or, nous n'avons rien commis. Si nous sommes innocents tous deux, Jules et Alphonse de Mélamar le furent comme nous. Des preuves, je ne vous en donnerai pas. Je ne peux pas vous en donner. Toutes les preuves nous accablent, et pas une n'est en notre faveur. Mais nous savons, nous, que nous n'avons pas volé. Cela, on le sait bien soi-même, n'est-ce pas? Je sais bien que ni Adrien ni moi n'avons emmené ces jeunes femmes ici, et que nous n'avons pas pris les diamants ni caché la tunique, nous le savons. Et nous savons aussi qu'il en fut de même pour notre grand-père et pour son père. Toute notre famille a toujours su qu'ils étaient tous deux innocents. C'est une vérité sacrée que mon père nous a transmise et qu'il tenait de ceux-là même qui avaient été accusés. La probité, l'honneur sont de règle chez les Mélamar. Si loin qu'on remonte dans notre histoire, on ne trouve aucune faiblesse. Pourquoi eussent-ils agi soudain sans raison? Ils étaient riches et honorés, et pourquoi, mon frère et moi, aurions-nous sans raison menti à notre passé et menti au passé de tous les nôtres? Elle s'arrêta. Elle avait parlé avec une émotion poignante et un accent désespéré qui, tout de suite, avait touché les deux jeunes femmes. Arlette s'avança vers elle, le visage contracté, lui dit « Et alors, madame, alors ?»« Alors, répondit-elle, nous sommes les victimes de je ne sais quelle chose. S'il y a un secret, c'est celui-là, celui qui est contre nous. Au théâtre, dans les tragédies, on montre des familles que le destin persécute pendant plusieurs générations. Voilà trois quarts de siècle que nous sommes frappés sans relâche. Peut-être, au début, Jules de Mélamar aurait-il pu et aurait-il voulu se défendre, malgré les charges terribles qui pesaient sur lui. Malheureusement, fou d'indignation et de colère, il mourut de congestion dans sa cellule. Et 25 ans plus tard, son fils Alphonse déjà n'offrait plus la même résistance, lorsque des charges différentes, mais aussi terribles, s'accumulèrent contre lui. Traqué de toutes parts, effrayé de se sentir impuissant, se rappelant le calvaire de son père, il se suicida. De nouveau Gilberte de Mélamar se tut, et de nouveau Arlette, qui frémissait en face d'elle, lui dit « Alors, madame, je vous en supplie, continuez. » Et la comtesse repartit. Alors la légende est née chez nous, légende de malédiction, qui s'appesantit sur cet hôtel funeste, où le père et le fils avaient vécu, et où l'un et l'autre avaient été pris à la gorge par l'étreinte des preuves. Brisée, elle aussi, au lieu de lutter pour la mémoire de son mari, la veuve se réfugie chez ses parents, à la campagne, élève son fils, qui fut notre père, lui enseigne l'horreur de Paris, lui fait jurer de ne jamais rouvrir l'hôtel de Mélamar, le mari en province, et le sauve ainsi de la catastrophe qui l'eût écrasé à son tour. « Qui l'eût écrasé ? » dit Arlette. « Qu'en savez-vous ? » ?»« Oui, oui !» s'écria la comtesse avec exaltation. « Oui, il eût été écrasé comme les autres parce que la mort est ici, dans cet hôtel. C'est ici que le mauvais génie des Mélamar nous cerne et nous terrasse. Et c'est pour nous être insurgés contre lui, après la mort de nos parents, que mon frère et moi, nous subissons la loi fatale. Dès les premiers jours que nous avons franchi la porte de la rue d'Urfée, arrivant de province plein d'espoir, oublieux du passé, joyeux d'entrer dans la demeure de nos ancêtres, dès les premiers jours, nous avons senti la menace sournoise du péril. Mon frère, surtout, moi, je me suis marié, j'ai divorcé, j'étais heureuse et malheureuse. Mais Adrien, tout de suite, devint sombre. Sa certitude était si grande et si douloureuse qu'il résolut de ne pas se marier. En coupant court à la lignée des Mélamar, il conjurait le sort et interrompait la série des malheurs. Il serait le dernier des Mélamar. Il avait peur. « Mais peur de quoi ?» demanda Arlette d'une voix altérée. « De ce qu'elle est advenir et de ce qui est advenu au bout de 15 ans. Mais rien ne le laissait prévoir, non. Mais le complot se traînait dans l'ombre. Les ennemis rôdaient autour de nous. L'investissement de notre demeure se poursuivait et se resserrait. Et l'attaque s'annonça brusquement. Quelle attaque? Celle qui s'est produite il y a quelques semaines. Incident naturel en apparence, mais avertissement terrible. Un matin, mon frère s'aperçut que certains objets n'étaient plus là, des objets insignifiants, un cordon de sonnette, une bobèche, mais qu'on avait choisi au milieu des plus beaux, pour bien marquer que l'heure était venue. Elle fit une pause et acheva. Que l'heure était venue, et que la foudre allait tomber. Ces mots furent prononcés avec une épouvante, pour ainsi dire, mystique. Les yeux étaient égarés. On sentait dans son attitude tout ce qu'elle et son frère avaient souffert en attendant. Elle dit encore, et ses paroles révélaient l'état de détresse et de dépression où la foudre, selon sa formule, les avait surpris. Adrien essaya de lutter. Il fit passer une annonce pour réclamer les objets disparus. Il voulait ainsi, comme il disait, apaiser le destin. Si l'hôtel reprenait possession de ce qui lui avait été pris, si les objets retrouvaient l'emplacement sacré qu'ils occupaient depuis un siècle et demi, il n'y aurait plus contre nous ces forces mystérieuses qui persécutaient la race des Mélamars. Espoir inutile. Que peut-on faire quand on est condamné d'avance? Un jour, vous êtes entrés ici toutes deux, vous que nous n'avions jamais vus, et vous nous avez accusés de choses auxquelles nous ne comprenions rien. Et ce fut fini. Il n'y avait pas à se défendre, n'est-ce pas? Nous nous trouvions subitement désarmés et enchaînés. Pour la troisième fois, les Mélamars étaient vaincus sans même savoir pourquoi. Les mêmes ténèbres nous enveloppaient que Jules et Alphonse de Mélamars, et le même dénouement mettrait fin à nos épreuves, le suicide, la mort. Voilà notre histoire. Quand il en est ainsi, il n'y a que la résignation et la prière. La révolte est presque sacrilège, puisque l'ordre est donné. Mais quelle souffrance et quel fardeau nous portons depuis un siècle! Cette fois, Gilberte était arrivée au bout de l'étrange confidence, et aussitôt, elle retomba dans cette torpeur où elle s'abîmait depuis le drame. Mais tout ce que son récit présentait d'anormal et en quelque sorte de morbide s'atténuait de la grande compassion et du respect qu'imposaient ses malheurs. Antoine Fagereau, qui n'avait pas prononcé une seule parole, vint vers elle et lui embrassa la main avec vénération. Arlette pleurait. Régine, moins sensible, paraissait aussi touchée.